bien sur Radio Marseillais, votre radio audoise. 9h-14h, la quotidienne d'Alexis sur Radio Marseillette.
Le bistrot du livre. Poussez la porte, asseyez-vous, et la suite, on vous la raconte. Se balader au milieu des livres, avec nos coups de cœur et nos coups de gueule, il n'y a pas de raison, des invités et les petites histoires des grands auteurs.
La chronique Le Bistrot du Livre en partenariat avec Cépage d'Encre et en compagnie de Françoise et Henri.
Bonjour. Bonjour Alexis.
Bonjour. Et aujourd'hui, nous vous emmenons au pays d'un meneur de lune, pour un voyage vers la lumière intérieure, ou bien encore, une traversée de la première moitié du XXe siècle, et tout ça, sans aller bien loin, à Carcassonne, voyage au cœur de la poésie, tout entier contenu dans une chambre toujours intacte, qu'une lampe de chevet éclaire faiblement, quelques tableaux encore accrochés, les fantômes d'autres toiles se découpent sur les murs, des rayonnages des livres, d'autres ouvrages encore à peine refermés sur un guéridon, aux côtés d'une pipe à opium, une fourrure jetée sur des draps d'un épais coton pour celui qui occupe tout le centre de la pièce, des fauteuils tout autour, en attente d'improbables visiteurs, une chambre comme un lieu de mémoire. Une chambre dans cette maison de Carcassonne ouverte à tous. Il n'y a qu'à pousser la porte, monter au premier étage. On vous y reçoit avec beaucoup de bienveillance. Et pour peu que l'histoire vous intéresse, on se fera un plaisir de vous accompagner et de vous raconter par le menu les aventures incroyables, les rencontres discrètes avec les plus grands artistes de cette époque, les instants de création pure, les rendez-vous amoureux aussi, qui ont eu pour cadre cette chambre-là. C'est au 53 rue de Verdun, au cœur de Carcassonne, la maison, la chambre d'un être étrange et fascinant qui a su faire de sa vie, de ses drames, l'essence même de son écriture.
La chambre, la maison de Joé Bousquet.
Un poète, essayiste, romancier, explorateur d'écriture qui a cristallisé autour de lui tout ce que la création rassemblait dans le même élan, la même passion. Et pourtant, au départ, rien dans ce garçon ne le distinguait des autres. Joé Bousquet est né à Narbonne, entre deux époques, en 1897 pour être précis. Il marche vers le XXe siècle avec la désinvolture d'un enfant bien né. Fils et petit-fils de médecin, le jeune homme semble plus soucieux de séduire les jeunes filles, flâner avec les amis, fréquenter les cafés, découvrir les vertiges de la drogue, que de plonger dans les livres et les études. Un voyage en Angleterre l'amène à découvrir d'autres horizons, mais bientôt, l'ombre de la guerre se profile. 1914, une affaire de quelques mois, croyait-on. Mais l'horreur s'installe, et en 1916, Joé Bousquet devance l'appel et s'engage.
Je m'appelle Joé Bousquet. Je suis né et mort deux fois. J'étais un enfant capricieux. On m'appelait l'homme-chien. Ma cruauté m'avait acquis ce sobriquet. Adolescent, on me disait « un mauvais garçon ». Pourtant, j'étais fils de bonne famille languedocienne. Mon père, médecin, mon oncle, chirurgien. En 1916, à 19 ans, je devance l'appel. J'ai un désir de guerre, une volonté d'en découdre. Avec ça, je gagne des galons et des médailles. J'avance. Je suis blessé une première fois. Grâce à ce courage de tous les diables, je suis l'officier le plus décoré de mon régiment. Convalescent, je rencontre Marthe à l'opéra de Béziers, ma première rencontre avec l'amour. Impossible. La colère de ma mère quand elle aurait su que je voulais épouser une divorcée. Vite, je veux retrouver la guerre, le front, je veux m'échapper. Et puis, lors d'une attaque allemande, moi, le lieutenant Bousquet, je ne sais pourquoi tous reculaient. Alors j'ai compris. C'était fini. Et je suis restée debout.
Nous sommes le 27 mai 1918 à Vailly, sur le front Ouest. Le lieutenant Bousquet est aux avant-postes, fauché par la mitraille allemande.
Une balle. Une balle dans la colonne vertébrale. Ma moelle épinière coupée. Mes jambes paralysées. Une unique balle mettra 32 ans pour me tuer. Seul, Couché dans mon lit, j'ai atteint des hauteurs telles que j'ai creusé le ciel. Enfermé dans ma chambre, enfermé dans mon corps, je rayonne dans cette lumière immobile. Le mal comme le bien a son ciel en moi. Car, il faut être sincère jusqu'au bout, j'ai été blessée à 21 ans, mais j'étais déjà un type perdu, complètement dévoyé, incapable de gagner sa vie, pris par l'amour de toutes les drogues, incapable de prendre sur lui d'écrire ou même de lire. Tout cela aurait fini par un coup de revolver. Ma blessure a fait tourner les choses autrement. Je suis comme un homme de tous les vents que la solitude et le silence auraient fait prisonnier.
Prisonnier de sa chambre, Bousquet découvre alors une forme de libération par l'écriture. Adepte des surréalistes dont il co-signera le manifeste aux côtés d'André Breton et surtout de Paul Éluard, à qui il voue une admiration infinie, le plus grand poète du siècle, dira-t-il. Les deux hommes entament une correspondance alors que Bousquet, avec des amis proches, dont René Nelly, collabore à diverses revues. Ses premiers écrits circulent, les premiers visiteurs commencent à se presser autour du lit, au 53 rue de Verdun. Éluard, un jour, s'arrête à Carcassonne, avec Gala, qu'il a épousée quelques années plus tôt. La future muse de Salvador Dali lui parle peinture. Bousquet a découvert Max Ernst, il y a peu. Il est l'un de ses peintres favoris avec Yves Tanguy. Or, Gala et Éluard connaissent bien le peintre allemand, qui vit désormais à Paris. Éluard ira jusqu'à acheter un tableau pour Bousquet, et un jour, le peintre, à son tour, débarque dans la chambre du poète. Et là, surprise. Ils s'aperçoivent, ironie de l'histoire, que lors de la bataille de Vailly, où Bousquet fut blessé, Max Ernst était lui aussi sur place, mais côté allemand. Même lieu, même date. De ce hasard naît une amitié profonde. Et une fois les derniers visiteurs partis, Bousquet reprend la plume, aidé par quelques pipes d'opium pour soulager la douleur. Premier recueil et premier roman, Le Meneur de Lune, biographie onirique qui retisse les fils épars de sa vie pour en faire la trame de ce livre.
À 20 ans, j'ai été gravement atteint par un coup de feu. Mon corps était retranché de la vie. Par amour pour elle, je rêvais d'abord de le détruire. Cependant, les années qui me rendaient mon infirmité plus présente enterraient mon intention de me supprimer. Blessée, je devenais ma blessure. Avec une vie si profondément entamée, j'ai voulu refaire de la liberté, acceptant que de mon être, mon infirmité fasse sa proie. Je disposais du temps qui m'était rendu. J'ai voulu changer ma nature et mutiler mon tempérament. Par un travail inlassable, je me substituais un être de culture. Le mal n'est pas haïssable en lui-même. C'est parce qu'il nous est naturel qu'il nous faut le combattre. Il ressemble à un prisonnier aspirant à revoir du haut de la montagne le bâtiment où il est enfermé. Que son corps fasse une si grande ombre sur lui ne l'empêchera pas de se transporter au large de ce corps et de le regarder avec les yeux du jour. Il se reconnaîtra dans un éclat de rire.
Être au large de son propre corps, surmonter sa souffrance, faire fi de son infirmité, trouver dans l'obscurité de la chambre, au-dedans de soi, toute la lumière du monde. Telle est la mission que Bousquet se confie pour le restant de ses jours. Quant à ses nuits, outre l'écriture, Joé Bousquet se plaît à les peupler de jeunes filles qui lui rendent visite, ses fiancées du vent, pour reprendre le titre de l'un de ses recueils. Des jeunes filles, de blanches à linettes, fascinées par la détermination de l'homme, séduites, et qui, chacune à leur manière, sauront lui procurer plaisir et enchantement. Entre fantasme et réalité, Bousquet teint alors son écriture d'un érotisme absolu. En témoignent ses cahiers noirs, où ses maîtresses lui dévoilent toutes les lumières de leur corps.
Elle se dépouille d'elle-même dans l'ivresse de se dorer au regard de son amant de tout le soleil qui s'est éclairé entre eux. C'est de tout le ciel qu'il possède le fruit, dans cette croupe tournée vers lui, dont il fouille la carnation transparente comme un doux miroir où descendent ses gestes. cette croupe me repoussait de la clarté qu'elle répondait. Elle me traversait de la lumière comme en écartant sur elle les ténèbres qui me traînaient avec elle. Et c'est dans la lumière de mon enfance que je la voyais s'envelopper de sa blancheur, découvrir à mon amour une image magnifique dans les voiles soulevées de l'innocence et de la splendeur.
De ces visiteuses de la nuit, Bousquet en nourrit son imaginaire et lui font oublier les souffrances. Et de la prison qu'est son lit, il en fait le lieu suprême d'évasion, de plaisir et d'inspiration. En témoigne cette lettre à une jeune fille, Linette, qui avait à peine 18 ans, lorsque, pour la première fois, elle franchit le seuil de la chambre. Nous sommes en 1946, une passion commence, une correspondance prolonge les instants partagés.
Carcassonne, samedi 7 décembre 1946. Eh bien oui, vous êtes inspiration. J'ai beaucoup réfléchi avant d'écrire ces mots. Chargé de mon émotion, il m'aurait paru plus fidèle, mais moins saisissable, un peu étranger à eux-mêmes. Je veux qu'aujourd'hui, vous entendiez ce que je vous dis sans avoir à rêver. Et c'est pourquoi je n'écris pas « Vous êtes fait ». Vous êtes inspiration. Ceux de vos gestes qui me concernent s'accomplissent dans le monde où je n'entre qu'en oubliant tout. Regardez bien vos yeux, Linette. Regardez vos mains, votre joli visage, la transparence dont votre corps est ailé. Pensez qu'ils sont une autre vie dans la vie, où l'amour n'est que l'illuminant échange des sexes.
Mais le Bousquet poète, séducteur, amoureux, ne doit pas nous faire oublier le Bousquet combattant, paralysé mais infatigable de la pensée et de la liberté. Ainsi, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a accueilli, protégé bien des intellectuels menacés par l'occupation allemande. Ainsi, la famille Gallimard fit halte sur la route de l'exil au 53 rue de Verdun, et tant d'autres. Et tous ces résistants qui, ici, dans la chambre, venaient récupérer ordre de mission ou information pour poursuivre le combat. Pouvait-on imaginer la chambre d'un infirme comme lieu de réunion secrète? Et si pour terminer, nous restions dans cette chambre qui abrita durant 32 ans Joé Bousquet, il mourra en 1950. Restons-y, mais avec son propre regard, le regard de celui qui avait fait de sa paralysie un mouvement sans fin.
Une main vient d'entrebâiller mes volets. Passe un long soleil d'hiver qui défait les lampes et revêt de ses couleurs une peinture ancienne. Je connaissais mal ce tableau où je vois, rouges et vertes, des robes en éventail et de blanches figures féminines dans une haute pièce obscurcie qu'un cadre sculpté détache de ses parois et suspend à l'ombre. On dirait que cet intérieur m'apparaît dans un miroir un peu incliné. La chambre est meublée et drapée comme l'endroit silencieux et retiré que j'habite. Des élégantes s'accoutrent pour le bal. L'une, habillée d'une pluie de dentelles et de feuillages, semble venue par la fenêtre que dissimule un rideau bleu. Et l'autre, qui me tourne le dos, a dû entrer par la cheminée que sa robe cramoisie me cache. Attirée par un miroir que je ne vois pas, les deux femmes contemplent leurs beaux yeux et disparaissent presque dans le reflet qui, dressé comme un petit cheval fougueux, n'emplit qu'à moitié la pièce.
Joé Bousquet, l'homme qui disait « j'ai perdu la verticalité, mais j'ai gagné la lumière », à découvrir ou redécouvrir par la visite notamment de sa maison 53 rue de Verdun à Carcassonne et dans ses recueils et ses livres. Et puis il y a aussi cet album de photos réalisé en 1946 par Denise Bellon, enrichi des lettres de Bousquet. Cela s'appelle joliment « Au gîte du regard », une édition signée René Pignès, le directeur du Centre Joé Bousquet, qui a su faire de la maison du poète un lieu de création, d'exposition, de rencontre tout à fait unique dans la région. Merci, monsieur Pignès. Et n'hésitez plus, poussez la porte du 53 rue de Verdun, vous y serez très bien reçu. Bien sûr, toute la bibliographie de Joé Bousquet sur le site de la radio à la page Le Bistrot du Livre. Et maintenant, sur le comptoir du livre, Françoise, un titre?
Un titre, Vie particulière, de Maurizio Cucci. Alors ça s'est édité en version bilingue, italien-français, par les éditions Le Bousquet Labarthe. C'est une maison d'édition indépendante installée en Lozère, au cœur des Cévennes. Alors d'abord, j'ai été intriguée, intéressée par ce titre, vie particulière, par ce mot. Alors ce mot, il a une sonorité qui est très proche de particulière, mais il y a aussi un sens formé de particules, petites parties de matière solide ou liquide. Et cette définition du mot, elle dit déjà plein de choses sur le livre, parce qu'il est formé comme ça, de petites particules de texte, presque indépendantes les uns des autres, mais à chaque fois proches de nos vies, de nos veilles, de nos vacillements, qu'on les croirait écrits que pour soi, ici et maintenant. Les textes sont souvent adressés, il y a des « nous », il y a des « t'apostrophes », ils pourraient être des fragments d'un journal, d'une correspondance. Et la langue elle-même, elle est simplement belle, limpide. Donc, vie particulière aux éditions Le Bousquet Labarthe, Maurizio Gucci, et c'est traduit et préfacé par Bernard Vanel. Voilà pour moi.
Et pour moi, un livre que je n'ai pas lu, mais un livre que j'ai entendu. C'est un livre de Georges Simenon, Loin des Maigrets. Ça s'appelle Le Train. Ça avait été adapté pour au cinéma par Granier de Fer, avec notamment Romy Schneider. Et là, c'est un livre que j'ai entendu dimanche sur la route. J'étais sur l'autoroute, en voiture, tout seul, sous la pluie. Et c'était Guillaume Gallienne et ses copains acteurs de la Comédie Française qui ont lu pendant 1h45 ce roman tout à fait formidable. C'était sur France Culture, pour ne pas la nommer. Et alors, là, on découvre l'écriture de Georges Simenon. Le père de Guillaume Gallienne l'avait incité à lire ce livre, à lire cet auteur, en lui disant, tu sais, Simenon, Loin des Maigrets, eh bien, c'est tout simplement Balzac, avec, après, Sigmund Freud, c'est-à-dire la psychologie au service de la description et de l'empathie des personnages. Du coup, ça m'a donné envie de relire Simenon, et je vous conseille un autre livre de Georges Simenon, Loin des Maigrets, ça s'appelle Lettre à mon juge, et c'est tout à fait passionnant, et ça doit vous dire quelque chose, parce que ça avait été adapté par Tavernier, avec Le Juge et l'Assassin, avec notamment un immense Michel Galabru, dans le rôle de l'assassin qui répétait « Mon juge, mon juge ». Voilà pour le comptoir du livre, donc Le Train et Lettre à mon juge de Georges Simenon, vous les trouvez encore en librairie. Et puis dans l'actualité aussi, un rendez-vous, samedi, c'est Cépage d'encre qui vous le propose, à partir de 20h, à Oupia, dans le cadre d'une exposition, La Traversée de l'Expo.
Et ça, ce sera un atelier d'écriture, donc vous êtes tous confiés à y participer, sauf qu'il faut vous inscrire pour ça. Donc vous pouvez vous le faire au 04 68 46 08 09, si vous voulez, ou sur l'adresse en 04 68 46 08 09, ou sur l'adresse cépage d'encre tout attaché tout au pluriel @oanadou.fr. Donc c'est un atelier d'écriture où on traversera l'expo, une expo qui est en train de s'installer à l'AFNAGE, à Oupia, une expo de Fernand Soile et de Bruno Selnay, dont les titres sont pour l'un L'échappée et pour l'autre Conditionnement. Et là, de tout ça, on va traverser l'expo en écriture samedi soir entre 20h et minuit.
Voilà, Soile et Selnay, deux artistes de Coursan, tout à côté. Voilà pour aujourd'hui, à bientôt.
Merci Françoise et merci Henri.
Et merci Alexis.